Radio Okapi.
Maisha bora.
Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Tout le plaisir pour nous de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Maisha Bora, votre magazine de promotion des questions de santé et bien-être sur Radio Okapi et qui se penche aujourd'hui sur la troisième vague de Covid-19 en RDC. Marcel Ngomombala est à la présentation de ce magazine mis en œuvre par JCCLA sous la supervision de Jean-Marc Matoki. Bienvenue à toutes et à tous. Vous le savez, la RDC est entrée dans la troisième vague de Covid-19 depuis le 3 juin dernier. Pourquoi en est-on arrivé à cette troisième vague? Quelle est la particularité de cette troisième vague? Et qu'en est-il à ces jours de la riposte contre cette pandémie en RDC? Les réponses dans ce numéro de Maisha Bora avec le docteur Michel Mouvoudi, membre de l'équipe de riposte contre la Covid-19 en RDC, et le professeur Jean-Marie Kaimbe, responsable de la prise en charge de patients atteints de Covid-19 en RDC. Mais avant, nous vous proposons de suivre le témoignage de ce monsieur qui évoque le cas du Covid enregistré dans son lieu de travail.
Oui, je sais dire que la troisième vague, elle est réelle et elle est active. On est en train de voir le cas de Covid-19, comme par exemple dans une des sociétés où je suis en train de travailler. Donc je crois qu'on a eu déjà, je peux dire, plus de 7 cas. Et un de nôtres est allé contracter la maladie. Il l'a amené et tout au début, c'était des fièvres, c'était la toux. Et il disait qu'il avait mal au niveau de la gorge. Et le responsable de la société lui a dit, non mais tu dois aller te faire passer le test et puis on essaie de voir. Il est allé. Et à partir de là, on lui a dit, non, tu es positif. Il est rentré, il voulait ne pas l'accepter, l'admettre, mais vu qu'il y avait les effets sur lui, on lui avait dit de rester à la maison. Il a fait plus ou moins, je crois, au-delà de 2 semaines à la maison. Et cependant, son voisin, celui qui était juste à côté de lui, il a observé les mêmes histoires. Il est allé à l'hôpital, on va constater que lui, il avait aussi la maladie. Et je peux te dire, là, on totalise 7 cas. Donc, le Covid est réel. Moi, j'ai les résultats. Mes résultats, moi, sont là. Je peux même te les montrer, si tu veux. Donc, les gens doivent faire attention parce que la maladie, elle est là. Elle est là. Moi, je ne blague pas. Je te dis des choses que nous sommes en train d'expérimenter là où nous travaillons. Donc, le Covid est là. Les gens doivent faire attention avec les mesures barrières. Nous devons porter les cache-nez, nous devons nous laver les mains. Nous devons veiller sur cela. Sinon, du coup, tu vas l'attraper parce qu'elle est... Elle est là, elle est en train de circuler avec une vitesse, je ne sais pas comment vous dire.
Alors la question que l'on peut bien se poser, pourquoi parle-t-on à ces jours d'une troisième vague de Covid-19 en RDC? Les explications avec le docteur Michel Mouvoudi. Nous rappelons qu'il est membre de l'équipe de riposte contre la Covid-19 en RDC.
Bon, alors avant d'abord de parler de troisième vague, c'est quoi une vague? Ok, je vais vous donner une expression facile, hein. C'est que vous voyez souvent quand vous êtes le long d'un océan ou le long d'un lac, lorsqu'il y a des mouvements, vous voyez quand l'eau frappe, vous voyez des vagues, c'est comme des ondulations. Okay? C'est ce qu'on appelle vague en fait dans l'épidémiologie. C'est référence à l'eau. Ça frappe, vous voyez l'eau qui monte et qui descend. On appelle les vagues. Si vous avez déjà voyagé par bateau, à un moment donné, le capitaine vous dit « Attention, nous allons avoir des vagues ». C'est quoi en fait? C'est des mouvements de montée et de descente. C'est ce qu'on appelle vague. Ça veut dire une vague d'une pandémie ou d'une épidémie, c'est lorsque vous connaissez une situation de montée, ok, vous atteignez un sommet et vous descendez. C'est vraiment comme la cloche. Et c'est ce qu'on appelle vague. Alors, quand on parle d'une troisième vague, ceci veut dire qu'on a eu une première, qu'on a eu une deuxième, et là on a une troisième. Ça veut dire qu'on a eu une fois dans l'histoire de la maladie, à un moment donné, on est monté, puis on est descendu. On a eu une deuxième fois où on est monté, on est descendu. C'est ce qu'on appelle vague. Donc celle-ci, c'est la troisième. Alors, la première vague, on avait eu juste avec le début de la pandémie. On a atteint un pic, je ne me trompe pas, c'est vers le mois de septembre qu'on a connu une déplétion. Quand on a connu une déplétion, ce qu'on appelle généralement la diminution de la courbe, on s'est rendu compte que vers le mois de mai, vers le mois de janvier, on a recommencé une montée pour constater une descente récemment vers le mois d'avril et de mai. Et là, on se rend compte que le nombre de cas commence encore à augmenter. On commence à passer d'une semaine à l'autre en termes de double. Le cas échéant, entre la 20e et la 21e semaine, on a connu une augmentation de plus de 35%. D'accord? Et les semaines passées, on a même connu des augmentations de 200%. Donc ça montre qu'on commence une autre montée. C'est ça que ça veut dire vague. Et donc c'est comme ça qu'on l'appelle troisième, en référence avec la première et la deuxième.
Il insistait par ailleurs sur le fait que cette troisième vague présente trois particularités, à savoir une forte augmentation du cas, une grande fréquence de cas graves et sévères, et aussi ce qu'on appelle des variants.
La particularité de cette troisième vague réside sur trois éléments. Le premier élément d'abord, c'est que c'est une vague qui montre une fréquence très élevée. Quand vous regardez le nombre de cas par semaine comparé à ce qu'on a eu avant, vous vous rendez compte facilement qu'on est très 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 haut. Le cas simple, on a en moyenne 500 nouveaux cas par jour. Si vous prenez une semaine, ça veut dire 7 jours, vous vous rendez compte qu'on peut facilement atteindre 3000 cas par semaine. Les cas notifiés, monsieur Marcel, parce qu'il y a aussi des cas non notifiés qui sont dans la communauté. Ça, c'est la première caractéristique, ça veut dire la vitesse de contamination. La deuxième caractéristique qu'on voit, c'est notamment le fait qu'on a des variants. Et la caractéristique de variants, c'est justement, un, cette propagation très rapide, mais aussi cette virulence. Donc, qui se caractérise aujourd'hui par notamment un nombre très élevé de cas graves. D'accord? Et je tombe à la troisième caractéristique, c'est justement, l'on constate que, contrairement aux autres vagues, on avait plus de cas simples, ok, qui se faisaient traiter à la maison avec le protocole national. Là, on commence à voir beaucoup de malades en hospitalisation. Ça veut dire beaucoup de cas graves et sévères. Le cas spécifique, j'ai visité les cliniques universitaires, c'est rempli, il n'y a pas de place. J'ai visité Ngaliema, il n'y a pas de place. Là, Diamant, il n'y a pas de place. Et on commence à saturer petit à petit parce que on se rend compte que le nombre de cas graves augmente. Ça, ce sont vraiment les caractéristiques de cette troisième vague.
Vous avez bien suivi l'une des particularités de cette troisième vague. On retrouve des variants du virus de COVID-19. Que faut-il comprendre par variant? Suivant les explications du professeur Jean-Marie Kaimé, responsable de la prise en charge de patients atteints de COVID-19 en RDC.
En ce qui concerne les variants chez les virus, nous avons déjà une connaissance des vieux virus comme celui de la grippe. Souvenez-vous, on le dit que chaque année, le virus qui provoque la grippe de 2020 ne sera pas forcément le même que celui qui provoquera la grippe de 2021. Les variants, c'est la transformation dans le matériel génétique du virus. La virulence, donc la force, la gravité de la transmission ou de la gravité de la maladie chez un virus dépend parfois aussi de son matériel génétique. Nous avons eu au début, chez nous en République démocratique du Congo, un SARS-CoV-2, qui est l'agent étiologique du COVID-19, qui avait une certaine cartographie génétique. Mais on étudie, et le monde entier, nous apprenons les uns au contact des autres, étudie via la biologie moléculaire la configuration génétique d'un virus. Nous avions pendant longtemps le nôtre, le virus que nous avions chez nous. Mais ce virus peut acquérir des mutations. C'est pour le virus le moyen de persister, de résister aussi comme espèce et d'éviter, ça s'appelle une immuno-évasion, c'est d'éviter l'immunité d'un sujet et continuer son pouvoir destructeur. On a connu, les premiers dont on a parlé, c'était notamment les variants britanniques, dont on a remarqué que, par exemple, l'épidémie qui avait commencé en Italie et en France, elle avait certes un pouvoir de létalité important, mais les mutations acquises, notamment celles qui avaient été mises en évidence par des analyses moléculaires en Grande-Bretagne, avaient un pouvoir de transmissibilité beaucoup plus sévère, plus rapide. Nous avons eu des variants sud-africains, par exemple, et plus récemment, brésilien, et plus récemment, on a parlé du variant indien. Souvenez-vous, c'est un secret de Polichinelle, qu'on a eu quelques sujets venant de l'Inde, chez nous ici, dans la commune de la Gombe qui ont été porteurs du variant indien. C'est dire que nous avons chez nous, à l'heure actuelle, la possibilité de caractériser génétiquement ce matériel viral. C'est ainsi qu'on a déterminé le variant indien. Vous me demandiez combien on a. Nous avons l'ancien germe, l'ancienne cartographie que nous avions toujours, mais nous avons le variant indien sur place, le variant sud-africain. Vous comprendrez aisément que ces virus, c'est pas d'eux-mêmes qu'ils se propagent de manière tout à fait facile et aisée. Ils sont véhiculés à travers les moyens de communication qu'empruntent les humains. Ce sont les hommes porteurs de ces différents variants qui les disséminent en voyageant. Aujourd'hui, le monde est un grand village facilité par les moyens de transport. Voilà un petit peu ce qu'on peut comprendre de manière rapide par les variants.
Quant à savoir qu'est-ce qui peut bien expliquer cette troisième vague de Covid-19 en RDC, les raisons sont évidentes, affirme le docteur Michel Mouvoudi. D'après cet expert, il s'agit du relâchement du geste des barrières et du non-respect de toutes les autres mesures liées à la limitation du nombre des personnes en cas de festivité, de deuil ou de tout autre rassemblement.
Je crois que je n'ai cessé de le dire. Nous connaissons le virus. Nous connaissons comment il se transmet. C'est pas comme le sida à l'époque. Vous savez, quand le sida, le VIH est apparu, on a pris beaucoup de temps pour détecter comment il s'est transmetté. On a perdu beaucoup de vies humaines. Mais avec la Covid-19, très vite, on a su que le SARS-CoV-2, c'est un virus qui se transmet par voie respiratoire. Et au début déjà, en Chine, les gens savaient que la meilleure façon de lutter contre ce virus, c'est ce qu'on appelle les gestes barrières, qui sont simples, qu'on connaît depuis très longtemps. Ça veut dire utiliser des barrières pour que le virus ne circule pas. Notez, je vous l'ai toujours dit, le virus ne circule pas, ce sont les hommes qui font circuler le virus. Ça veut dire il faut mettre en place des mécanismes qui font que le virus ne puisse pas circuler. Alors, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, l'humanité, les scientifiques en concert ont travaillé au niveau mondial pour trouver un vaccin. Aujourd'hui, nous avons des vaccins qui sont passés par les trois phases et qui ont été testés sur les animaux, qui ont été testés sur un petit nombre de gens. Aujourd'hui, on commence à vacciner. Vous avez vu ce qui se passe à travers d'autres pays africains. Vous voyez ce qui se passe notamment au niveau de l'Europe et des États-Unis. La vaccination est un moyen important. On le savait même, hein, parce que tout le temps, on disait la meilleure de façon à pouvoir vacciner, à pouvoir lutter contre cette maladie, ça va être la vaccination. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on arrive à de telles situations? D'abord, premièrement, notez que même quand on connaît une diminution de la courbe, cela ne veut pas dire qu'on tombe au point zéro. Le virus continue sa circulation. Ça veut dire que nous avons encore des cas résiduels. Nous avons encore des cas qui circulent. Et donc, à ce titre-là, ces cas qui circulent, n'est-ce pas, peuvent faire repartir des nouvelles infections. Non, le malheur, c'est quoi? C'est que entre la première et la deuxième, on constate le relâchement des mesures barrières. On a tendance à croire que c'est fini. Surtout lorsque le chef de l'État avait levé l'état d'urgence. En tout cas, le message était perçu comme quoi c'est la victoire, le coronavirus est terminé. Non. Entre la deuxième et la troisième vague, c'était la même chose. On a demandé qu'on ne relâche pas. Regardez sur la ville, combien de gens ont encore de points de lavage de main dans les magasins, dans les institutions publiques, qui encore gardent le point de lavage de main? Est-ce qu'on met encore le masque? C'était terminé ces choses, n'est-ce pas? Y compris même les pratiques d'enterrement. On est revenu sur des choses qu'on avait refusées. On vous dit de sortir le corps, de faire 15-20 minutes et aller enterrer. Vous faites 4 heures, les accolades, les fleurs, on commence à faire des manipulations, des cercueils. Toutes ces choses, monsieur Marcel, étaient revenues. Donc ne soyons pas surpris de voir ce qu'on voit aujourd'hui. Nous sommes responsables de ce qui arrive. Comme un peu en Inde, rappelez-vous, la flambée qui a tué sérieusement en Inde, c'était consécutif à une manifestation religieuse. On a dit aux gens, attention, vous ne pouvez pas faire des rassemblements. Les gens sont allés dans la Gange, ils ont célébré leur dieu. Et après, vous avez vu ce que l'Inde a vécu comme situation. Et c'est triste, jusqu'à 3500, 4000 morts par jour. Vous comprenez? Donc c'est encore une fois de plus ça le problème. Et je crois que même pour le futur, le message à tirer c'est quoi? C'est que quand on va passer la troisième vague ici, il n'est pas exclu qu'on ait encore une quatrième. Mais il faut maintenir les mesures barrières. Mais surtout, surtout ce qui va nous aider, c'est la vaccination.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine de bien-être, des questions de promotion de santé sur Radio Okapi qui s'épanche aujourd'hui sur la troisième vague de la Covid-19 en RDC avec le docteur Michel Mouvoudi, membre de l'équipe de Riposte contre la Covid-19 en RDC, le professeur Jean-Marie Kayembe, responsable de la prise en charge des patients atteints de Covid-19 en RDC. Cette troisième vague a comme particularité une forte accélération du cas de Covid-19 avec comme épicentre la ville province de Kinshasa, mais aussi quand s'élevaient des cas graves et sévères, et aussi la présence des variants. Et parmi les raisons à la base de cette troisième vague, il y a notamment le relâchement des gestes barrières, mais aussi un aspect à ne pas négliger. Il s'agit de toutes ces fausses informations véhiculées sur les réseaux sociaux, aussi bien sur la pandémie elle-même que sur le vaccin, comme le souligne le docteur Michel Mouvoudi.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord au début, les gens résistaient pour croire que la maladie existait. Parlons même pas de la vaccination. La maladie même, c'était un problème. Malheureusement, le Congolais croit toujours que ce pays est un pays des miracles. Ce pays n'est pas un pays des miracles. Les virus ont été créés aussi par Dieu. Mais Dieu nous a donné, nous les hommes, l'intelligence de pouvoir les combattre. C'est ça qui est important. Les animaux, les serpents, les moustiques que vous voyez, ce sont des créatures de Dieu. Ne pensez pas qu'il n'y a que vous que Dieu a créé. Mais Dieu a fait que, parce qu'ils sont nuisibles à l'homme, Dieu révèle à l'homme l'intelligence de pouvoir combattre. On a dit aux gens, il y avait la Covid. On a laissé les gens dire qu'il n'y en avait pas. Maintenant, avec la vaccination, on savait, on a commencé. Et vous avez vu, il y a des gens qui ont utilisé des fausses informations pour dire que non, c'est pour tuer les Noirs, stériliser les Noirs, c'est une puce pour contrôler, dans 2 ans, vous allez mourir. Moi, je me suis fait vacciner. Jusqu'aujourd'hui, je ne vois pas en quoi est-ce que je suis devenu zombie. Vous voyez? Donc, encore une fois de plus, comme les gens ont fait pour dire aux autres que la maladie n'existait pas, les personnes qui n'ont pas le discernement, malheureusement, l'ont attrapé et sont décédées. Les mêmes personnes encore, parce que même parmi ceux-là qui doutaient de la maladie, malheureusement, j'en connais même qui sont décédés. Les mêmes personnes reviennent encore pour dire, écoutez, la vaccination, c'est une façon de pouvoir tuer les Noirs. Et les gens commencent à négliger. Donc, cette résistance-là n'a aucun objet. C'est une résistance irresponsable, d'accord? Parce que vous voyez très bien qu'il y a tous les pays qui vaccinent. Moi, je ne sais pas pourquoi il n'y a qu'au Congo où on va stériliser les gens. Le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Gabon, le Congo-Brazza, le Ghana, tous les pays africains vaccinent. Quand vous quittez l'Afrique, les États-Unis, la France, partout on vaccine. 1 million de gens. Mais pourquoi ici, on ne peut pas vacciner? Pourquoi le Congo ne peut pas aussi participer à cet effort de l'humanité? Pourquoi? On est toujours là pour tirer les autres en arrière. Les autres font un effort pour dire que le monde puisse se débarrasser de la Covid-19. Non, nous, on est dans les compréhensions. Donc, je voulais ici profiter de l'occasion pour dire aux gens qu'on arrête d'abord, pour tous ceux qui le font, arrêtez de pulluler et de partager des fausses informations. Et ayez le discernement. Il n'est pas dit que quand on partage une vidéo, quand on partage un message dans les réseaux sociaux, ça veut dire que c'est vrai. Vous savez bien qu'il y a des gens qui ne font que inventer des choses. On l'a vu avec les autres maladies, on l'a vu avec l'Ebola. Il y a quelqu'un qui prend son temps à inventer, à imaginer des choses dans le souci justement de nuire. Parce que quand vous avez dit aux gens que la maladie n'existait pas, il y en a qui ont refusé le masque, il y en a qui ont refusé de se laver les mains. Ces gens sont enterrés aujourd'hui. Vous êtes co-responsables. C'est la même pratique que certaines personnes commencent à faire maintenant. Faut pas jouer avec la vie parce que la mort est irréversible. Mais de l'autre côté, nous avons des gens qui se font vacciner, monsieur Marcel. En RDC aujourd'hui, prenons même l'AstraZeneca qu'on a eu. On a vacciné 30 000 personnes. Mais moi qui vous parle, j'étais vacciné. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait vacciner. Vous avez suivi des images. Les ministres de la Santé se sont vaccinés. Les agences de nations, les chefs d'agence au niveau des Nations Unies sont vaccinés. Mais comment ces gens-là ne sont pas morts? Comment ces gens-là n'ont pas des puces? Comment ils ne sont pas tombés? Comme on a vu des images, on vaccine quelqu'un, il tombe, il meurt. Donc, encore une fois de plus, nous devons nous faire vacciner. Si nous respectons les gestes barrières, si nous nous vaccinons, nous allons aller de l'avant. Et nous allons voir vraiment que nous allons vivre avec la Covid-19 sans qu'elle nous inquiète. Parce que le problème, ce n'est pas de dire la Covid est terminée. La Covid va continuer. La malaria existe depuis Pharaon. Vous comprenez ça? Mais le problème, c'est d'avoir des médicaments, d'avoir un vaccin qui est efficace et qui nous permet justement de vivre malgré que la maladie circule.
Et justement, au sujet du vaccin, une question que se pose également bon nombre de Congolais. Pourquoi la RDC n'a souscrit qu'au vaccin AstraZeneca, alors qu'il existe aussi d'autres vaccins? Docteur Michel Mouvoudi nous livre quelques éléments de réponse.
La RDC, au début, quand on a commencé la vaccination, nous, on n'avait pas les moyens. Le COVAX, le mécanisme COVAX, en fait, c'est un mécanisme mondial pour permettre à ce qu'il y ait de l'équité. OK, en termes d'accès au vaccin, on a donné à tous les pays l'AstraZeneca. Ce n'est pas que la RDC qui a eu l'AstraZeneca. Le Sénégal a eu l'AstraZeneca. Le Congo, Brazzaville a eu l'AstraZeneca. OK? Le Rwanda a eu l'AstraZeneca. Presque, c'était le vaccin qui avait été distribué par le mécanisme de COVAX presque dans tous les pays africains. Et tous les pays africains ont vacciné avec l'AstraZeneca. Vous avez vu, on a remarqué justement qu'il y avait quelques cas de thromboembolie. Quelle était la position de la RDC? On avait même reporté le lancement pour vous montrer qu'en fait, on n'est pas en train de faire des choses pour le faire. On avait dit attention, on devait lancer la vaccination, je crois, un 3 avril. On a repoussé pour d'abord être sûr que ce qui est arrivé est réellement une situation de masse. On a fait des enquêtes, on a constaté que c'était des cas isolés et que ce n'était pas vraiment une relation directe. Il y avait des facteurs favorisants, justement, qui ont fait que ces gens-là développent des thromboembolies. Vous comprenez? Et on a commencé à vacciner jusqu'aujourd'hui. Maintenant, pour pouvoir avoir d'autres vaccins, il faut de l'argent, monsieur Marcel. Ok? L'AstraZeneca nous avait été donné. D'ailleurs, nous avons même redéployé le surplus de doses parce qu'il y avait des pays qui consommaient plus que nous. Mais maintenant, aujourd'hui, l'effort mondial est de pouvoir donner aussi la possibilité aux pays de choisir plusieurs types de vaccins. Moderna, Pfizer, vous avez suivi, par exemple, au G7. C'est ça même le débat. Au G7, le sujet, c'est la vaccination contre la COVID-19. Et je remercie justement le président Joe Biden qui a donné à l'humanité 500 millions de doses de Pfizer, dont 200 millions seront déjà disponibles cette année et 300 millions après. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il y a eu cet effort pour que nous puissions avoir des vaccins. Il y a le Sinopharm qui est là, il y a le Sputnik V qui est là. On a des vaccins qui peuvent aussi aider, le Johnson & Johnson. Vous comprenez? Donc on y travaille, on va avoir une pluralité. C'est comme la malaria aujourd'hui. Vous n'avez pas qu'un seul médicament pour la malaria. Donc une seule molécule. Donc c'est ce qui est bien, c'est que vous pouvez avoir plusieurs molécules et ça vous permet de changer. Mais cela ne peut pas vous exclure. Au moment où vous n'avez qu'un seul vaccin, vous ne pouvez pas dire, moi je ne peux pas prendre ce vaccin, j'attends quand on aura 20. Mais entre maintenant où vous prenez cette décision de dire, je ne prends pas un seul vaccin, et là qu'on attende qu'on ait 5-6, mais vous pouvez avoir des situations de Covid graves et sévères et vous mourrez. Donc encore une fois de plus, cet effort à la pluralité de vaccins est en train d'être fait et je crois que les Congolais seront informés qu'on aura 2-3 vaccins, et ça va encore une fois de plus faciliter.
Que peut-on retenir à l'heure actuelle de la prise en charge des personnes atteintes de la COVID-19 en RDC? Le professeur Jean-Marie Kaembe nous en parle.
Oui, globalement, c'est une préoccupation, il faut le dire. Lorsqu'on a des variants, vous comprenez, le virus qui acquiert une sorte de nouvelle intelligence pour escamoter, pour éluder, pour s'évader de moyens de prévention, des moyens de défense immunitaire. Les variants montre et relève davantage encore l'importance des mesures préventives. La règle, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Étant donné que l'on est quand même un petit peu désarmé tant qu'à présent en ce qui concerne l'approche curative de cette pathologie, nous avons entendu parler de plusieurs essais cliniques de médicaments qui ont pratiquement tous été surtout autorisés à titre compassionnel. Le médicament qui doit être accepté par tous, par l'Organisation mondiale de la santé, passe par plusieurs étapes. Mais ici, l'avantage, c'était d'utiliser des molécules déjà connues. Notamment, parlons de la chloroquine dans nos pays que nous avons longuement utilisée dans le traitement du paludisme. On la connaît, la chloroquine. On connaît ses effets délétères. On connaît son pouvoir, ses propriétés antivirales, etc. Notre protocole thérapeutique, le national tout au moins à l'heure actuelle, comprend toujours l'hydroxychloroquine et l'azithromycine auxquelles nous adjoignons quelques oligo-éléments qui sont reconnus pour booster le système immunitaire. Je dois être honnête et reconnaître que nous avons actuellement en essai quelques médicaments de chez nous. Je ne les citerai pas parce qu'il faut éviter de faire de la publicité. L'éthique médicale me l'interdit. Qui sont en train d'être pris en essai, surtout dans les formes bénignes, les formes légères. S'il s'avère, au fil des analyses, qu'ils sont concluants et efficaces, en tant que Congolais, je serai sûrement le premier à être heureux de dire que ce n'est ni de Jérusalem, ni Bethléem qu'est venu le salut. Le salut est venu de mon pays, Kinshasa, mon pays que j'aime bien. Mais il y a des règles dans l'utilisation ou la prescription ou la recommandation de l'utilisation d'un médicament. Nous ne devons pas déroger à ces règles scientifiques. À l'heure actuelle, nous avons pu acquérir une certaine expertise dans le traitement et ce qu'il y a de plus important comme l'oxygène, les anticoagulants, les corticoïdes. Avec humilité, nous apprenons les uns au contact des autres de ce qui est le mieux pour soulager nos patients. Y a-t-il aujourd'hui un médicament fétiche? Ma réponse est directement non. On a vu notamment, j'essaierai d'être très bavard, on a vu notamment l'utilisation des anticorps. Monoclonaux, c'est comme cela qu'on les appelle. Ça voudrait dire des anticorps externes que l'on injecte à un individu qui vont prendre la place de ce que peut produire avec l'appui, évidemment, les vaccins. Ces anticorps ont été administrés, nous n'allons pas citer des gens non plus, mais à un homme célèbre de ce monde puissant, d'un État puissant, qui en a bénéficié avant même leur autorisation de mise sur le marché par la FDI. Et ils ont montré une certaine efficacité. Mais, laissez-moi vous dire, une cure de ces anticorps, c'est plus ou moins, je ne suis pas très sûr, ni économiste de santé, 20 000 $. Et s'il en faut, pour 5-6 jours, dites-moi combien de compatriotes chez nous peuvent accéder à tel traitement. C'est pour ça que nous devons ensemble développer, avec la pharmacopée traditionnelle, etc., dans les règles règles de l'art, développer ce qui peut nous aider à côté de la prévention, éventuellement, à nous tirer d'affaire. J'insiste sur, en ce moment-là, l'importance de la prévention, notamment par les mesures barrières.
Et oui, le meilleur remède pour limiter la propagation de la COVID-19 demeure la prévention à travers le respect des gestes barrières, mais aussi la vaccination, insiste le docteur Michel Mouvoudi. Celui-ci invite les Congolais à participer à l'effort mondial de lutte contre la COVID-19.
Faites-vous vacciner. Donc les mesures barrières, encore une fois de plus, c'est important. D'accord ? Nous les connaissons depuis le mois de mars 2020. Mais pour la vaccination, je voulais quand même donner trois messages. Le premier message, j'entends les gens dire, oui, moi je ne peux pas me faire vacciner, je voulais d'abord voir le gouverneur le faire. Non, moi je ne peux pas me faire vacciner, je voulais d'abord voir que notre ministre l'a fait. Non, moi je ne peux pas, mais où sont les députés ? Mais il faut d'abord que les gens comprennent que la santé, chacun est responsable de sa santé. Si vous mourrez aujourd'hui, on vous enterre, vous, on ne vous enterre pas avec le gouverneur. Si le gouverneur meurt ou le sénateur meurt ou le député meurt, on l'enterre pas avec vous. Vous êtes le premier responsable de votre santé. Il ne faut pas mettre sous tutelle votre santé parce que un ministre ne l'a pas fait, je ne le fais pas. Parce que vous l'avez vu aux États-Unis, Trump avait refusé de porter le masque. Il l'a porté quand il est tombé malade avec sa femme. Est-ce que vous pensez que parce qu'on est président, parce qu'on est ministre, vous êtes forcément celui qui prend la bonne décision? Pas du tout. Donc, je voudrais dire ici que chacun est responsable de sa santé. Et si chacun est positif dans la pratique à faire, vous allez voir qu'à l'addition, nous allons nous protéger. Ça, c'est un élément important. Donc, arrêtez cette histoire de dire, j'attends d'abord voir que tel professeur, j'attends d'abord voir que si notre chef de l'église, j'attends d'abord voir si notre cardinal, non, mais moi, j'ai patient de voir si le bourgmestre, non, votre santé, du reste, vous avez vu, même pendant cette pandémie, l'intérêt des célébrités. Ça, c'est important. Mais je voudrais quand même aussi annoncer à ceux-là qui ont l'oreille de la population, les leaders d'opinion, les leaders politiques, les leaders religieux, que l'exemple vient d'en haut. Les actions parlent plus fort que les mots. Arrêtez toujours aussi de dire aux gens, vaccinez-vous. Montrez que vous vous êtes fait vacciner. Nous, on s'est fait vacciner. Le personnel de santé doit se faire vacciner. Moi, je ne peux pas accepter qu'il y ait des médecins qui vont dans les hôpitaux. Du reste, parfois, ils sont contaminés. Ils contaminent même les malades, parce que vous avez vu que parmi les personnes touchées, on avait beaucoup de problèmes de santé. Comment on peut accepter qu'on puisse avoir des médecins, des infirmiers non vaccinés, mais qui se permettent de manipuler les malades? Vous comprenez? Ça, c'est des décisions qu'il faut prendre pour rendre obligatoire, en tout cas, cette vaccination. Je sais qu'elle est volontaire, mais à un moment donné, il faudra que les gens comprennent qu'on prêche par l'exemple. Le deuxième message, je vous le dis, c'est ayez le discernement. Ce n'est pas pour rien, vous voyez, même pendant les processus électoraux, on bloque les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des gens qui n'ont aucun discernement. Quand ils voient dans les réseaux sociaux quelque chose, ils y croient. Non, ayez le discernement. Vous avez des experts en santé publique dans ce pays qui ont fait des preuves, avec l'Ebola, on a géré des épidémies et même on a aidé d'autres pays. Vous avez un ministère de la Santé. Suivez les informations que vous donne votre ministère de tutelle. Pourquoi les gens se font marcher par les réseaux sociaux? Pourquoi les gens acceptent ce qu'on raconte? Et quand vous regardez à la fin, c'est des contradictions. Essayez ce qu'ils vous disent, comme j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, non, on a dit que non, le téléphone colle là, on vous a piqué. Mais on l'a essayé sur les gens, ça ne marche pas. Mais vous sentez que il y a beaucoup de motivations négatives derrière. Mais encore une fois de plus, quand vous mourrez, vous n'allez pas dire, je suis parti dans la terre. Vous n'allez même pas le dire parce que vous êtes déjà parti et la mort est irréversible. Le troisième message, c'est de dire aux gens que le pays fait des efforts. Aujourd'hui, on avait commencé la vaccination à Kinshasa. Aujourd'hui, dans 6 provinces, on vaccine. Nous augmentons encore les sites de vaccination. On est à presque 200 sites qui vaccinent. Nous allons passer à 500. Mais l'idée, c'est aussi améliorer l'offre pour que les gens, quand ils veulent se faire vacciner, que ça ne soit pas difficile. Et cette vaccination est gratuite. Donc, ça ne demande pas de l'argent. Encore une fois de plus, participons, chers Congolais, à l'effort de l'humanité pour mettre fin à la propagation du coronavirus.
Voilà, fin de ce numéro de Maïcha Bora, de ce jour consacré à la troisième vague de la COVID-19 en RDC. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. À la mise en onde de Justicia, à la présentation, Marcel Ngomombala sous la supervision de Jean-Marc Matraki. À très bientôt.